Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Donald Trump n'a pas changé, il communique toujours autant sur Twitter. Les historiens seront en mesure de reconstituer l'organisation de ses journées à la seule lecture de ses tweets, mais aussi peut-être de définir à partir de cette matière la manière précise de ce que fut en réalité sa politique. Alors nous n'en sommes pas là. Après 100 jours ou presque passés à la Maison Blanche, il est toujours aussi compliqué d'enfermer le nouveau président américain dans une case. Ainsi, sur sa politique étrangère, son isolationnisme affiché faisait peur avant son investiture. C'est désormais son interventionnisme qui effraie. Bombardement de bases syriennes sans arrêt ferré à ses alliés, manœuvre d'intimidation à l'égard de la Corée du Nord, utilisation d'une bombe de destruction massive en Afghanistan. Comme l'écrit Le Monde diplomatique dans sa dernière livraison, Trump semble converti à l'usage de la force. Alors si conversion il y a eu, ce n'est pas la seule, du moins en apparence. Sa proximité avec la Russie de Poutine a subi une poussée inversement proportionnelle à son changement d'attitude avec la Chine de Xi Jinping. L'OTAN, ce machin vieux et coûteux, semble désormais trouver davantage grâce à ses yeux, jusqu'à l'accord de Paris sur le climat qui pourrait finalement ne pas être remis en cause. Alors Trump est-il un agent double ? Eh bien, c'est l'étrange question que nous allons poser à trois invités ce soir. Amy Green, bonsoir. Vous êtes politologue, chargée de mission à Sciences Po Paris. Vous avez participé à l'ouvrage collectif « Les États-Unis dans le monde » publié aux éditions du CNRS en 2016. Pour discuter avec vous, Philippe Golub, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. On vous doit aux éditions du Seuil en 2011 une autre histoire de la puissance américaine. Et puis, troisième invité, Laure Mandeville, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, grand reporter au Figaro. Ancienne correspondante de ce journal aux États-Unis. Vous avez publié l'an dernier aux éditions des Équateurs. C'était avant l'élection de Donald Trump. Qui est vraiment Donald Trump ? Alors, je disais que ce titre pouvait paraître un petit peu étrange. Celui qu'on avait d'abord retenu l'était peut-être encore davantage. On avait intitulé cette émission « Trump est-il bipolaire ?» rapport à la question d'un monde bipolaire avec d'un côté les méchants et de l'autre les gentils. Et puis aussi rapport à ce que c'est que d'être bipolaire du point de vue de la santé mentale. Et juste avant l'émission, Laure Mandeville, vous m'avez dit à la fois à quel point ce titre pouvait être problématique, mais qu'il pouvait aussi être, que ça pouvait être aussi une question que se posaient les Américains sur la réalité et sur de l'état de santé psychologique, on va dire, du nouveau président américain.
Oui, exactement. Moi, ce qui me frappe beaucoup sur Trump ces jours-ci, c'est qu'il y a eu à Yale une rencontre, en fait, je dirais plusieurs dizaines, si j'ai bien compris, de psychiatres et psychanalystes divers qui se sont réunis au sein d'une association appelée Duty to Warn, c'est-à-dire le devoir d'avertir, pour avertir en réalité les Américains et la classe politique et l'ensemble de la société américaine du fait que Donald Trump était fou. C'est-à-dire qu'il était mentalement déséquilibré et que selon le diagnostic qu'ils auraient porté en le regardant à la télévision, en écoutant ce qu'il dit et en écoutant son discours, ils en étaient arrivés à la conclusion que cet homme devait être mis hors du pouvoir. Alors personnellement, moi, ça m'a choqué, je dois vous dire, et c'est pour ça que j'ai trouvé votre titre provocateur, puisque on sait aussi que l'Association des psychiatres américains a protesté contre ce genre de sortie en disant que, selon ce qu'ils appellent la Goldwater Rule, la règle de Goldwater, les psychiatres et autres psychanalystes ne peuvent pas porter un diagnostic psychiatrique sur quelqu'un qu'ils n'ont pas examiné. Donc évidemment, il y a quelque chose de politique. Et ce qui est intéressant, c'est que Trump, pour les gens qui le rejettent, après avoir été un homme qui était considéré comme un clown, puis après comme un Hitler, et puis après comme une marionnette des Russes, est maintenant un fou. Et je pense évidemment que c'est quand même un petit peu, tout ça est un petit peu exagéré.
Alors comme a priori, il n'y a pas de psychiatre dans ce studio, sauf si vous me dites le contraire, que vous avez fait des études de psychiatrie, on va plutôt rester non pas sur un diagnostic psychiatrique mais sur un diagnostic politique en utilisant un autre mot qui a été beaucoup utilisé justement et pendant la campagne et au moment de l'élection de Donald Trump, qui est celui d'imprévisible. Est-ce que Donald Trump, dans sa politique étrangère, est toujours aussi imprévisible qu'il paraissait devoir l'être, Amy Green ?
Oui.
On a l'impression qu'il découvre effectivement ce que c'est être président des États-Unis tous les jours. Il rencontre le président chinois et il dit « Je pensais que la Chine effectivement contrôlait la situation en Corée du Nord. » Et au bout de 5 minutes, j'ai compris que c'est une situation bien plus complexe. On peut citer plusieurs exemples comme ça, mais on peut s'étonner du fait qu'il n'aurait pas mesuré la gravité de ses fonctions avant de les prendre.
Et plus de l'ordre de l'amateurisme que de l'imprévisibilité.
Oui, bien sûr, mais c'est effectivement, il a changé d'avis sur la Syrie, il a envoyé des bombes sans pour autant changer de stratégie, ni d'avoir une politique qui soutienne son action. Mais on voit de droite et à gauche, il considère que l'OTAN est obsolète et puis il dit que finalement j'ai décidé que ce n'est plus obsolète parce que les Européens disent qu'ils vont désormais combattre le terrorisme. Donc effectivement, c'est à la fois une forme d'immaturité, mais également d'imprévisibilité, puisqu'il il passe son temps à rencontrer le président égyptien dans une grande fête. Et en revanche, avec Angela Merkel, c'est sans, il refuse de la serrer la main. Et donc je considère que oui, effectivement, c'est une forme d'imprévisibilité qui renvoie des messages parfois instabilisants aux alliés des États-Unis à un moment où justement on cherche la main stable du président des États-Unis, donc aujourd'hui le moteur principal de l'ordre international.
Philippe Golub, l'imprévisibilité, c'est le mot qui pourrait être le plus pertinent, en tout cas un des plus pertinents pour définir ce qu'est la politique étrangère aujourd'hui de Donald Trump.
Alors je pense que, bon, c'est une très bonne question, je pense qu'on peut interpréter autrement ce caractère apparemment imprévisible de la prise de décision et de l'action de ce nouveau président. Et si on regarde de près, il me semble que même s'il n'y a pas une cohérence globale à son action internationale, il y a quand même de la méthode dans la folie. There's method in the madness, n'est-ce pas? Et quand il rencontre Xi Jinping à dîner en Floride, il lui annonce enfin de soirée au milieu du dessert, qu'il vient de lâcher des bombes en Syrie, ces salves de Tomahawks, des missiles en Syrie. Lorsqu'il lance sa très grande bombe de 10 000 tonnes, 10 kilotonnes en Afghanistan, il envoie un message, non pas aux Afghans, ni même à Daesh, mais il envoie un message, me semble-t-il, c'était au moment où il y a encore d'ailleurs une mobilisation militaire autour de la Corée du Nord, il envoie un message à la Corée du Nord et à la Chine, n'est-ce pas? Donc il y a dans tout ça, me semble-t-il, et la question de l'OTAN, quand il dit l'OTAN est obsolète, et puis après il dit « Oh, c'est pas si obsolète que ça ». Moi, il me semble que dans tout ça, il y a les prémices de ce qu'on pourrait appeler une diplomatie coercitive, une politique unilatérale, non pas isolationniste, mais unilatéraliste, qui est caractérisée par des actes de diplomatie coercitive qui ont pour objectif de faire entendre aux amis et aux adversaires des États-Unis, sinon aux ennemis des États-Unis dans le cas de la Corée du Nord, que ce président est capable d'imprévisibilité et d'action qui semblerait à la limite de la folie, disons dans un certain sens, et qui cherchent à modifier leur comportement dans un sens voulu par cette administration.
Donc quelque chose d'assez réfléchi, même si sur la forme ça peut être parfois déstabilisant.
Réfléchi dans le sens que je voulais vous dire, Kissinger disait de Nixon, parce qu'on n'a pas de preuve que Nixon lui-même l'ait dit, mais Kissinger disait de Nixon à tous les dirigeants internationaux qui rencontraient Kissinger, que Kissinger était à moitié fou et qu'il était prêt à utiliser des armes nucléaires au Vietnam. Et il avait appelé ça « the madman theory ». C'est-à-dire que faire croire aux autres que le président était d'une telle imprévisibilité qu'il serait prêt à aller très très loin et donc pousser les autres acteurs à des concessions préalables qu'ils n'auraient peut-être pas autrement fait. Et tout ce que l'on voit actuellement, l'orchestration de la diplomatie américaine autour de la Chine et de la Corée du Nord, fait partie de cette, me semble-t-il, de cette diplomatie coercitive.
À la différence près, peut-être, que pour l'instant, on n'a pas encore identifié qui serait le Henry Kissinger de Donald Trump. Laure Mandeville, est-ce que la diplomatie qui est menée donc depuis la mi-janvier à la depuis la Maison Blanche, c'est une politique qui est politique dirigée directement par le président américain, ou bien est-ce qu'elle fait l'objet aussi d'une réflexion de la part de conseillers qui pourraient peut-être essayer de définir progressivement une doctrine un peu claire, tout en gardant ce flou sur la méthode Trump?
Oui, juste pour dire un mot de ce qui a été dit avant, c'est vrai que Trump revendique l'imprévisibilité en politique étrangère. Donc c'est vrai qu'il y a d'une part, il y a le style Trump. Et le style Trump, il est justement hors norme. C'est quelqu'un qui casse tous les codes, qui est capable d'être impoli avec Angela Merkel, d'embrasser le Chinois, comme l'a dit très bien Amy Green après l'avoir voué aux gémonies pendant sa campagne. Tout ça, c'est le style. C'est-à-dire un homme qui est capable de passer d'un style à un autre, sans transition, de manière brutale ou chaleureuse selon les moments. Ça, c'est une chose, c'est le personnage, la personnalité. Mais il y a aussi ce qu'il revendique en tant que acteur aujourd'hui, président politique. Et donc lui, il a toujours dit, moi je serai le président de l'imprévisibilité en politique étrangère. Et il critiquait à longueur de campagne le fait que Barack Obama disait en permanence tout ce qu'il allait faire, nous allons faire la bataille de Mossoul, nous allons intervenir ici et pas là, détaillant sa politique syrienne. Il a toujours critiqué ça et lui, c'était l'effet de surprise. Il cite toujours Sun Tzu sur ce sujet.
Et est-ce que cette imprévisibilité, justement, il l'impose à son entourage ou à ses conseillers, ou bien est-ce que un certain nombre des décisions qu'il a prises depuis qu'il est au pouvoir sont plutôt la démonstration que les conseillers prennent de l'influence et le ramènent dans le droit chemin? Je sais pas si c'est
exactement. C'est l'autre chose que je voulais dire, c'est que on a affaire à quelqu'un qui était totalement novice. Il faut bien être bien clair là-dessus. Il avait un certain nombre d'instincts sur ce que devait être la politique étrangère, cette idée de l'Amérique d'abord, etc. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas la scène internationale et qui, sur de nombreux dossiers, est encore extrêmement ignorant de la complexité des dossiers. Ce qui se passe, c'est qu'on doit reconnaître malgré tout qu'il a mis sur pied, après quelques aléas, dont notamment le fameux épisode de Michael Flynn, son premier conseiller de la sécurité nationale, une équipe dont tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui, elle tient la route. On est face à notamment un trio, que je dirais même un quatuor, si on met aussi dedans le conseiller à la sécurité intérieure qui joue un rôle notamment sur la question du Mexique et de la frontière. On a donc le secrétaire à la défense qui est, je dirais, l'homme clé de l'échiquier,
le général James Mattis,
qui est donc un homme extrêmement brillant, extrêmement intelligent, cultivé, qui fait d'ailleurs lire les grands auteurs philosophiques à ses troupes, enfin qui est connu pour ça. C'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Il y a aussi le conseiller à la sécurité nationale, qui est lui aussi un ancien militaire, ce qui montre l'influence des militaires dans l'entourage de Donald Trump. Et il y a
le secrétaire d'État, McMaster,
et il y a le secrétaire d'État dont on a beaucoup trop vite, à mon avis, jugé très mal les capacités au début, parce qu'il a eu du mal à rentrer dans sa fonction, puisque c'est l'ancien patron d'ExxonMobil. Il s'est retrouvé propulsé à la tête du département d'État, qui est une énorme structure dont il a dû prendre la mesure. Mais on voit bien que cette équipe avance maintenant en groupe, qu'il y a une excellente interaction qui existe aujourd'hui entre Mattis et Tillerson. Et je pense que tout cela n'est pas étranger au fait que Trump, peu à peu, prend un peu aussi la mesure des choses. Donc il y a encore son caractère qui joue, mais l'affaire syrienne, clairement, il y a le rôle qu'a joué son entourage, Tillerson, Mattis, McMaster.
Il y a certes cet entourage qui commence à se créer ou bien se consolider autour du président Trump, mais il ne faut pas oublier que tout au long de la campagne, le président aujourd'hui, anciennement candidat, s'est montré méprisant de l'expertise, c'est-à-dire des universitaires. À peu près le seul groupe qui n'a pas méprisé ouvertement, c'était les militaires. Et là encore, il avait dit qu'il connaît mieux la situation en Irak que les généraux. Et ensuite, il est revenu un peu sur ses propos. Mais pour parler de votre question initiale, par rapport à qui est le Kissinger de Donald Trump, il faut aussi se dire que Donald Trump est quelqu'un qui fait confiance à Donald Trump d'abord. Et c'est quelqu'un qui visite ses stations de balnéaire, enfin ses hôtels à peu près tous les week-ends, pas tous les week-ends, mais assez souvent. C'est quelqu'un qui n'a pas décidé de se retirer de ses affaires en tant que président pour éviter des conflits d'intérêts. Donc c'est quelqu'un qui pense d'abord à soi. et ensuite on peut dire peut-être aux autres. Et donc dire qu'il y aurait un Kissinger suppose beaucoup de ce président. H.W. Bush, donc George Bush père, avait son James Baker, Nixon avait son Kissinger. Là, aujourd'hui, on peut dire que la personne qui a plus ou moins unanimement la confiance du président, c'est son beau-fils, c'est Jared Kushner, mais qui se bat entre Steve Bannon, l'autre éminence grise de la Maison-Blanche. Le style de Trump, et c'est avoué par ailleurs, c'est qu'il est effectivement imprévisible même dans la gestion de ses équipes, ce qui fait que personne n'a la certitude de le place par rapport à cette personne. Et donc, il les fait battre entre eux, il fait des compétitions entre équipiers pour justement semer la doute entre eux. Et ensuite, il arbitre en fonction de ce qu'il veut. Et par ailleurs, il y avait plusieurs témoignages qui disaient qu'il a l'air de prendre la décision compte tenu de l'opinion de la dernière personne qu'il a consultée. Donc, supposer qu'il peut tisser des liens de confiance suffisant pour avoir un Kissinger ou un James Baker, je pense que c'est de supposer des caractéristiques de cette personne, Donald Trump, qui ne possède pas.
Vous êtes d'accord avec ça, Laure Mandeville ?
Je ne suis pas capable d'en juger, je dirais, à ce moment de cette présidence. Je pense qu'il est peut-être un peu trop tôt. Ce que je voulais dire aussi...
On peut peut-être en juger en comparant la pratique qui pouvait être la sienne lorsqu'il était un businessman sur sa capacité à déléguer, à être conseiller.
Et pour le coup, je crois qu'il déléguait beaucoup, en fait. C'est quelqu'un qui met des gens autour de lui. Il veut que ce soit quand même des personnalités assez fortes. Ça ne doit pas être des valets ou des personnages falots à ses ordres. Il veut des fortes personnalités, mais il veut ensuite qu'ils délivrent des résultats. Et je crois que c'est quelqu'un qui, autant il peut leur faire confiance sur un domaine, mais s'il voit que ça ne marche pas, je pense que c'est quelqu'un qui n'a aucun état d'âme. Il y a une sorte de pragmatisme presque brutal qui fait qu'il est capable de se débarrasser de quelqu'un. Il ne va pas s'attacher à quelqu'un. Et une chose que je pense est importante de dire, c'est que quand on a dit on est dans une rupture, je ne suis pas du tout certaine qu'on soit totalement dans une rupture. C'est-à-dire que effectivement, il est en train d'apprendre que l'OTAN, c'est important. Donc là, oui, il y a une évolution et bien sûr qu'il se contredit. Mais je pense qu'il est en train de prendre la mesure de ça. Mais en revanche, sur la question de l'usage de la force, il n'a jamais dit pendant sa campagne qu'il n'utiliserait pas la force. Moi, je le vois beaucoup dans le prolongement de Teddy Roosevelt, où c'était agiter le gourdin et parler doucement, mais ça ne veut pas dire que vous n'utilisez jamais le gourdin. Donc, vous vous souvenez, la formule de Teddy Roosevelt, « Carry the big stick and speak softly ». Je pense qu'il est toujours là-dedans. C'est-à-dire, il n'a jamais exclu l'usage de la force. De toute façon, ça va être un personnage flexible et pragmatique, et ce sera les faits qui dicteront sa politique étrangère.
Donc, il serait vain et peut-être prématuré. Alors déjà, Philippe Golub, de caractériser pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore à son jour de présidence Trump, sa politique étrangère, et sur la question de la rupture, ou des revirements. Le revirement, par exemple, c'est vrai que c'est un mot qu'on a beaucoup entendu, notamment pour qualifier ces bombardements américains sur cette base aérienne syrienne, en disant, on est dans un vrai changement d'attitude. Quel est votre point de vue ?
Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Quel changement ? Le bombardement, c'est quand on regarde de près le bombardement lui-même, était un bombardement qui n'avait pas pour objectif, ni d'ailleurs comme effet, de changer la donne en Syrie. La donne en Syrie n'a pas évolué depuis ces bombardements-là. Les bombardements...
D'autant qu'elle n'a pas été suivie d'autres actions.
Le bombardement avait pour fonction de montrer que le président était capable de bombarder. Le bombardement n'avait pas pour fonction de changer la donne, les équilibres en Syrie. Et d'ailleurs, n'a pas changé les équilibres en Syrie. Et ce qui a suivi non plus. Donc, je pense qu'il faut aller au fond des choses et dire voilà, nous sommes Teddy Roosevelt, c'est effectivement pertinent. Nous sommes dans une affirmation d'une certaine forme de nationalisme américain. Il y a différentes variantes, des variations dans le nationalisme américain, mais une certaine forme de nationalisme américain qui s'affirme comme unilatéral, qui est une affirmation de la puissance américaine dans le monde, et qui correspond très bien, en effet, aux unilatéralistes des années D'ailleurs des impérialistes des années, Teddy Roosevelt est un impérialiste, n'est-ce pas? Teddy Roosevelt, McKinley, Brooks Adams, toute cette équipe-là qui étaient des expansionnistes, disons, si vous n'aimez pas le mot impérialiste, des expansionnistes qui avaient des objectifs de pouvoir internationaux et qui n'hésitaient absolument pas à utiliser la force, tout à fait au contraire. Les nationalistes qui ont mis à bas la Société des Nations. Au Sénat américain, Henry Cabot Lodge et toute son équipe d'ailleurs, les McKinley, les Teddy Roosevelt et le reste. Ces nationalistes-là, c'est ce nationalisme-là qui s'affirme dans l'administration de Trump, y compris chez les militaires, qu'ils soient intelligents ou pas d'ailleurs.
Donc lui, il a un objectif de pouvoir national et il met la politique étrangère au service de cet objectif national.
Absolument, c'est-à-dire c'est la puissance nationale américaine dans le monde avec la souveraineté américaine au-dessus du droit international, au-dessus du droit humanitaire international, et au-dessus de l'ONU, etc. L'ONU n'est pas mieux traitée aujourd'hui qu'il nous l'était sous George W. Bush, au moment où George W. Bush rejetait complètement l'ONU. On est là dans l'affirmation unilatérale de la puissance américaine et de la souveraineté américaine dans le monde, avec des objectifs qui varient selon les zones, les régions, etc., et selon les circonstances. Il ne faut pas... Il y a dans la droite américaine, historiquement et dans une grande continuité, dans le temps long, il y a cette affirmation-là que la souveraineté américaine ne se divise pas, qu'on ne peut pas soumettre la souveraineté américaine au droit international. La lutte autour de la Société des Nations est le moment définissant cette structuration de la droite américaine, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu avec Goldwater avant, c'est ce qu'on a vu avec George W. Bush, c'est ce qu'on voyait sous Nixon. C'est cette affirmation plus ou moins forte au sein des droites américaines d'un souverainisme qui a des objectifs de puissance internationale.
Est-ce que c'est pas seulement républicain? Enfin, il me semble que les démocrates ont pratiqué l'unilatéralisme au cours de leur histoire politique étrangère.
Oui, mais il y a un courant particulier idéologique au sein de la droite américaine, au sein du Parti républicain, qui historiquement est ancré dans une vision qui était dans l'expansion continentale américaine et ce qui a suivi après dans le Pacifique.
Et ce qui est tout à fait vrai, c'est l'affirmation que Trump a faite pendant la campagne et puis qui continue en tant que président des États-Unis, c'est de remettre la question de la nation, de nationalisme au centre du jeu.
Exactement.
Alors qu'on peut voir, il y avait peut-être une rupture avec Barack Obama qui justement a essayé de, si on aime Barack Obama, on peut lire ça positivement, il y a d'opposition à ça, mais en tout cas, un président des États-Unis qui a essayé de comprendre les nouvelles nuances du système international, les changements dans les rapports de force entre, par exemple, les États-Unis, la Chine, d'autres pays émergents ou réémergents d'ailleurs, et donc, il a essayé de comprendre ça. Et ce qu'il n'a peut-être pas su faire, c'est d'expliquer aux Américains pourquoi les États-Unis ne peuvent plus diriger le système international comme ils avaient pu faire auparavant, depuis 1945. Les limites, etc. Donc, Obama avait agi. C'était difficile, c'était complexe et donc difficile à expliquer aux Américains. Et donc, la promesse de Trump, c'était de dire, tout ça, c'est fini. Il y a des pays, il y a la souveraineté qui prime. Et donc, les États-Unis, en tant que pays, doivent primer sur tout. Et affirmer justement cette puissance. Donc c'est vrai que, rupture ou pas, ou peut-être qu'on revient vers une forme de continuité, mais en tout cas par rapport au président Obama, il y a un vrai changement de fond et de forme. Et
justement, par rapport à Barack Obama, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact de la volonté de se démarquer absolument de ce qu'ont été les 8 ans de pouvoir de Barack Obama, avec cette figure tellement populaire à l'extérieur des États-Unis? Est-ce que les premiers pas diplomatiques, disons, de Donald Trump ont été marqués par cette volonté de rupture à Migrine et Lormandville?
Il a réussi à se fâcher avec le Mexique au bout d'une semaine, donc que ce soit souhaité ou non, à mon avis, c'était simplement le côté débutant dans la démarche politique. Il y avait le fait que c'était très chaotique les premiers jours de la présidence Trump. Donc, est-ce que c'était un choix affirmé? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il a réussi à rendre beaucoup plus difficile des relations qui devraient être justement assez faciles et rassurantes avec les alliés les plus proches des États-Unis.
Il peut y avoir un désir d'émancipation, peut-être, par rapport à cette figure assez imposante qu'est celle d'Obama.
Mais justement, le paradoxe, c'est que Obama, au début, a énormément. Il y a eu des attentes gigantesques. Là, Amy a complètement raison. Une fascination, vous l'avez dit vous aussi. Mais le problème d'Obama, c'est que quand il quitte le pouvoir, il est perçu comme le président de l'impuissance sur la scène internationale. C'est quelqu'un qui n'a rien fait. Il reste comme le président qui n'a rien fait en Syrie, qui a, au moment où il s'agissait de donner un coup de semonce à ce régime, au contraire, démontré une sorte d'impuissance des États-Unis, une sorte de retrait dans lequel s'est engouffrée la Russie, laissant, qui a déroulé ensuite son influence sur le dossier syrien, et au-delà, au Moyen-Orient. Donc c'est aussi l'éclipse des États-Unis du Moyen-Orient, Obama. Et donc ce qui est intéressant, c'est que les Européens, qui au départ était tellement plein d'espoir, ont eu une sorte de déception. Obama s'est remis sur le dossier même européen, et par exemple le dossier de l'Ukraine très tardivement. Il a voulu relancer la relation avec la Russie, exactement d'ailleurs comme Trump a aussi voulu le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, Obama, lui, il a quand même essayé de jouer ce jeu du reset, de la relance, qui a complètement échoué. Et Trump, qui a été présenté comme une marionnette de Poutine, est finalement l'homme qui, dès le début de son mandat, avant même d'avoir essayé, se retrouve pris dans la logique des relations interétatiques, qui est toujours apparemment celle de la relation entre les Russes et les États-Unis. Il est face à un régime, de toute façon, avec lequel il est difficile de s'entendre, et il est en train de le découvrir. Et ce qui est intéressant dans son... Je pense qu'il y a un côté de faire différent d'Obama dans la frappe en Syrie, c'est montrer qu'il n'y a plus d'impuissance sur la question de l'usage de la force au sommet de l'État américain. Cela ne veut pas dire, et là je suis pas totalement d'accord avec Philippe Golub, qu'on est dans une espèce de dynamique expansionniste de la puissance unilatérale. Il me semble au contraire que l'instinct de cette équipe, c'est de vraiment ne pas se déployer dans des aventures hasardeuses. Je pense pas du tout que ni Trump ni Matisse ne veuillent tenter le coup diplomatique. Ce qu'ils veulent essayer, c'est de remettre une sorte de position de force sur le terrain pour faciliter une éventuelle négociation avec la Russie. Bien évidemment, il n'est pas du tout prouvé que cela marche.
Je parlais des expansionnistes du début du XXe siècle. Je ne disais pas que Trump était un expansionniste. Bien que je pense qu'il y a des tendances au sein de son administration qui le sont. Il y a une réflexion en profondeur au sein des cercles de pensée en relations internationales et en géopolitique. Républicains aux États-Unis, sur la Chine et sur la Russie qui se focalise sur l'idée de comment potentiellement, si possible, contenir la Chine pour arrêter son ascension en tant que très grande puissance, n'est-ce pas? Il y a des études qui ont été faites, des travaux universitaires qui sont discutés au sein des états-majors stratégiques. Il y a une véritable réflexion qui est craintive quelque part de la part des experts en géopolitique américaine que la Chine va devenir à l'avenir, dans un avenir proche, n'est-ce pas, à une puissance plus grande et plus périlleuse pour les États-Unis que l'Union soviétique ne l'a jamais été.
Bien sûr.
Et dans l'administration américaine, il y a des gens qui sont convaincus de cela, mais qui ne savent pas encore exactement comment gérer cette question. D'ailleurs, comme Obama ne savait pas exactement comment gérer cette question. Quand Obama commence un pivot stratégique vers l'Asie, son objectif principal, c'est non pas ouvertement de contenir la Chine, mais au moins de gérer la question de la réémergence de la Chine, n'est-ce pas? Chez Trump, pas lui-même nécessairement, mais au sein des équipes qui constituent son administration, une préoccupation fondamentale que l'on verra, me semble-t-il, se dérouler dans le temps, de limiter les possibilités d'action de la Chine en mer de Chine du Sud, en mer de Chine orientale, en Corée et dans le reste du monde. Et le dossier coréen, en partie, fait partie de cela, n'est-ce pas? Parce que la Chine est là devant un problème de très grande ampleur, n'est-ce pas? La Chine ne peut pas permettre, selon elle, une réunification des deux Corées après l'effondrement du régime, tant que les Américains sont encore là, et dans des conditions où les États-Unis deviendraient la puissance dominante dans la péninsule. Parce que la Chine voudrait que la Corée éventuellement réunifiée à l'avenir redevienne non pas un satrape, mais disons une dépendance en quelque sorte de la Chine. Et donc, on est là dans un jeu très complexe et à long terme, à moyen terme et à long terme, entre la Chine et les États-Unis. Et ils réfléchissent sur cette question. Mattis et Tillerson et les gens autour de Trump. Tout cela fait partie, non pas d'un expansionnisme, mais d'une réflexion sur la nature de la puissance américaine dans le monde. Moi, personnellement, je préfère la manière dont Obama a géré ces questions-là que la gestion actuelle qui implique quand même des risques très importants. Comme on le voit aujourd'hui en Corée.
Est-ce que ces risques, justement, ce sont des risques qui sont assumés, d'après vous, Amy Green, sur la question, par exemple, de la Corée du Nord? Alors, c'est vrai qu'on a du mal aussi à comprendre, même si on peut considérer que Donald Trump et son équipe mettent toutes les options sur la table, c'est-à-dire en montrant à la fois qu'on peut être dans la discussion, dans les sanctions économiques, et puis dans une intervention militaire. Est-ce que, ouais, le risque d'aller vers un conflit qui serait armé et qui impliquerait, si ce n'est directement, en tout cas forcément indirectement, la Chine, ce risque-là est assumé?
Oui, peut-être. Il y avait une question autour de la Corée, par exemple. Le vice-président Pence avait démontré que l'administration s'était trompée de mer dans lequel se trouvaient des navires, ce qui contribuait à la montée des tensions dans ce conflit. En fait, on parle de la question du conflit, du conflit armé, mais j'avais aussi en tête une autre sorte de conflit, ce qui est des enjeux un peu globaux, transverses, qui n'impliquent pas nécessairement des armes, c'est-à-dire le climat. On a parlé de l'envie éventuelle de Donald Trump à se démarquer du président Obama, à faire des frappes en Syrie, par exemple, à démontrer la puissance américaine. Peut-être, certes, ça peut renvoyer un message justement de la place de la nation américaine au sein du système international comme étant primordial, fort, qui peut faire ce qu'il veut quand il souhaite. Mais il y a aussi un risque vrai, c'est-à-dire qu'au moment où Donald Trump tente à se désengager de l'accord sur le climat, ou en tout cas qui dénonce son soutien pour cet accord, et que c'est le gouvernement chinois qui dit par exemple à Davos qu'il est très important, donc ils sont là pour en parler, entre autres enjeux, et les États-Unis sont absents, je pense que ça envoie un mauvais message qui est à la fois pas du tout en phase avec ce que veut l'électorat américain, mais aussi qui renvoie un signal très dangereux à nos alliés et à d'autres pays par rapport à des enjeux qui sont peut-être pas aujourd'hui en situation d'amener à un conflit, mais si on considère les enjeux du climat, ça peut très vite devenir armé. Et puis de toute façon catastrophique pour tous.
Même si ce message paraît moins clair qu'il ne l'était encore il y a quelques jours, Laure Mandeville.
Exactement. Je crois que là, c'est pareil. Hein. On est dans une phase de recentrage, me semble-t-il, du message. Et que sous la pression notamment d'une kyrielle de grands chefs d'entreprise extrêmement puissants américains qui comportent tous les patrons de la Silicon Valley, les principaux pétroliers du pays, Donald Trump est en train de changer de mettre la barre à nouveau vers la COP21, et je pense qu'ils vont finalement probablement rester à l'intérieur. C'est en tout cas la prévision de plusieurs analyses, de Al Gore qui a vu le président tout récemment. Ce qui est clair, c'est qu'il y aura ce dont parle Amy, c'est-à-dire malgré tout le maintien de ce qui leur paraît être l'intérêt national primordial, c'est-à-dire que s'ils restent, ils renégocieront par exemple ce que l'Amérique doit faire en termes de baisse des émissions de gaz carbonique à la baisse. Ça sera revu à la baisse, mais il semblerait aujourd'hui qu'ils aillent vers ça. En revanche, sur la Chine, moi je suis d'accord avec vous, ça me paraît être un dossier qui transcende totalement les partis. C'est-à-dire que la question chinoise, moi ça fait 8 ans passés à Washington que j'en entends parler, et je pense que avant que j'arrive, c'était déjà le cas, que les Américains, depuis des années, ont bien compris que le problème montant du 21e siècle, pour eux, ça va être la Chine, comment on gère la Chine, et que l'idée du containment, en fait, donc contenir cette Chine, c'est une idée transpartie, et que toute la politique d'Obama dans la région a été absolument...
Mais ça se décline différemment selon les différentes administrations.
J'ai pas le sentiment.
Avec des emphases différentes. Si, je vous donne un exemple, je veux revenir sur la Corée du Nord, parce que je pense qu'on discute ici de beaucoup de choses très importantes et intéressantes, et je ne nie absolument pas leur centralité, mais nous sommes là devant, immédiatement là devant nous, devant une crise potentielle de très grande envergure, où les États-Unis sous Trump, ce qui n'a pas été fait avant sous Clinton, surtout pas sous Clinton, sous George W. Bush, George H.W. Bush, George W. Bush ou Obama n'avaient pas été faits. Les États-Unis, le gouvernement des États-Unis a officiellement tracé des lignes rouges beaucoup plus importantes et beaucoup plus graves que les lignes rouges tracées par Obama en Syrie. Cette ligne rouge est une ligne rouge que Trump lui-même a définie comme étant une ligne rouge de guerre. Que si la Corée du Nord revenait pas récipissant, je sais pas si on dit ça,
On a compris.
Oui, que si la Corée du Nord n'agissait pas selon ses volontés, et si la Chine ne faisait pas ce qui était nécessaire pour faire en sorte que la Corée du Nord soit mise en ordre, eh bien à ce moment-là, les États-Unis agiraient. Et il l'a dit, il l'a redit, ses ministres l'ont redit, Pence l'a redit à la frontière de la Corée, et il y a, quelles que soient les erreurs de communication autour du déploiement du task force naval du Pacifique, les forces américaines vont dans la direction de la Corée actuellement.
Et justement, alors, Philippe Golub, est-ce que le bombardement en Syrie, est-ce que le bombardement en Afghanistan, ce ne sont pas justement des signes qui sont montrés que la politique étrangère américaine aujourd'hui, elle est capable d'assumer, d'utiliser la force et d'être suffisamment convaincante pour obliger ses adversaires à
de
négocier.
De tenter d'obliger. La diplomatie coercitive dont j'ai parlé au début, la bombe utilisée en Afghanistan n'avait pas pour objectif d'effrayer Daesh. Cette bombe avait pour fonction de montrer qu'on pouvait faire ça en Corée du Nord, n'est-ce pas ? La Chine est sommée aujourd'hui, Xi Jinping est sommé aujourd'hui, et la direction chinoise, par Washington, de contraindre son allié difficile, coréen, nord-coréen, n'est-ce pas ? La Chine n'agira pas selon les diktats américains, elle ne le fera pas. Pas que moi je soutiens la politique chinoise, c'est pas ça, mais elle ne le fera pas. Et elle fera des choses, elle ira peut-être dans le sens des États-Unis pendant un moment, mais pas dans un autre. On est là devant un test de très grande ampleur.
C'est vrai, mais il y a juste une chose que vous n'avez pas mentionnée, c'est que vous avez tout à fait raison de dire que il y a une montée des périls sur ce sujet, une montée du ton, en fait, guerrier. Mais ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que ce ton guerrier est aussi dicté par ce qui se passe sur le terrain. Parce que ce qui s'est passé depuis des années, je dirais même des décennies, c'est que les politiques qui ont été menées pour tenter de contraindre la Corée du Nord ont totalement échoué. Et qu'aujourd'hui, quand Obama, je me souviens que quand il y a eu la passation de pouvoir entre Obama et Trump, je crois que le dossier qui a été discuté en priorité et sur lequel Obama a exprimé sa profonde inquiétude, puisqu'il sentait venir une crise, c'est précisément le dossier nord-coréen.
Est-ce que du coup, pour conclure, parce qu'on est déjà au terme de l'émission, on pourrait dire, pour rester sur cette comparaison alors entre la présidence Obama et ce début de présidence Trump, que finalement, il y a plutôt une similarité dans les objectifs, mais que c'est sur la méthode, sur les moyens utilisés pour atteindre ces objectifs, que là, il y a une grande différence, qu'on avait plutôt un président diplomate auparavant et qu'aujourd'hui, on aurait un président, en tout cas, capable d'assumer, de mettre à nouveau les États-Unis dans une guerre.
Si l'objectif fondamental, c'est de protéger et défendre les intérêts nationaux américains, j'espère bien. Mais je ne suis pas totalement d'accord avec le fait que les objectifs seraient les mêmes. Je pense qu'il y a une distinction très claire à affirmer, c'est que Obama était plus dans l'accompagnement vers un prochain système international qui prenait en compte effectivement la complexité, l'interdépendance, les nouveaux un peu structures et dynamiques qui gouvernaient le monde, ainsi que démographique, politique, sociale, etc., économique. Alors que Trump est vraiment dans l'affirmation de la place des États-Unis dans ce système-là comme étant primordial, moteur, et de refaire venir les États-Unis dans cette ancienne conception du pouvoir américain, pas nécessairement très évoluée par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais en tout cas cette ancienne vision de l'Amérique grande, de grandeur, forte et donc capable de frapper, d'agir où elle souhaite, quand elle veut.
Je vous remercie tous les trois de nous avoir éclairés sur ces 97 premiers jours de Donald Trump à la présidence des États-Unis en matière de politique étrangère. Bon, évidemment, on consacrera d'autres émissions à cette question. On verra si l'imprévisibilité de Donald Trump se confirme et s'il y a quand même des lignes de force qui s'imposent. Mais vous nous avez déjà donné quelques idées intéressantes sur le sujet. Merci Laure Mandeville, Amy Green et Philippe Golub. Merci à l'équipe du Grain, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richet et Cyril Baer. Émission réalisée par Romain Masson avec à la prise de son Vincent Ronet. Demain, comme chaque vendredi, ce sera le club des idées du Grain avec la question suivante. Quelle attitude face au FN ?